Bonjour à tous. Je viens avec une grande gratitude et au Père Michelin.
C'est le Père Rocher Noriega et qui est, je ne me souviens plus tout, de tout ce que vous faites. Il travaille à Rome, mais pas que. Ça va? À l'Institut Jean-Paul II? Mais vous avez une fonction importante?
Non, c'est le Père Granados qui a la.
Non, mais ils sont toujours comme ça. Si on veut savoir la vérité, il faut commencer par les séparer. Il a beaucoup écrit et est spécialiste en théologie morale du mariage. Ça va?
C'est ça pas... va, très bien.
Excusez-moi.
Alors, je viens avec une grande gratitude au Père Michelin parce qu'il nous a invités. Et aussi à l'Studio Notre-Dame, parce que vous avez accueilli la publication de la traduction et la publication de ces livres, et aussi l'organisation de ces jours d'études sur les minorités créatives. Alors, je voudrais vous expliquer un peu comment est-ce que je vois la question, et je voudrais et dire en premier lieu comment les paroles du pape quand il a dit en allant à la République tchèque et comment il voyait l'Église dans cette nation comme une minorité créative, ces paroles ont été pour moi si étonnantes. Et quand je l'écoutais, je disais c'est vraiment quelque chose et très fécond pour comprendre l'Église et le pouvoir que l'Église a de transformer la société. Bien, mais la question est que ces paroles ont été reçues d'une façon si rare. Parce qu'en Italie, par exemple, les évêques, les théologiens, ils les ont laissés passer absolument ces paroles. Et les évêques ne voulaient pas parler sur l'Église comme une minorité créative. Bien. Et alors, nous avons décidé d'étudier la question et nous avons publié ce livre. Et nous avons invité un évêque auxiliaire de la diocèse de Madrid pour la présentation du livre. Et alors, dans la présentation du livre, l'évêque disait: mais l'Église, n'est-ce pas minoritaire, n'est créative? Alors, je me disais, c'est bien de commencer en présentation d'un livre sur l'Église comme minorité créative en niant la proposition majeure. Et je voyais que la question n'est pas facile pour l'établissement d'accepter les paroles du pape. Bien, mais qu'est-ce qui se passe? Et que si nous regardons les paroisses, si nous regardons l'essor de religieux, si nous regardons les mouvements dans l'Église, qu'est-ce que nous regardons? Nous regardons qu'il y a des paroisses qui vivent quelque chose qui est si étonnant, si fascinant, et quelque chose qui est attractif, que beaucoup de gens vont là-bas pour partager. Et il y a des paroisses qui célèbrent le même sacrement, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'élan. Mais aussi, il se passe avec les ordres religieux. Et il y a des ordres qui ont une vie si forte au-dedans d'elles-mêmes que les gens bien, ils ont beaucoup de vocations. Mais il y a des sortes qu'il n'y a pas de vie au-dedans. Il n'y a pas un débordement de la vie qu'ils sont au-dedans et qu'ils trouvent beaucoup de difficultés pour partager. Bien. Mais la même situation avec les mouvements. Il y a des mouvements au-dedans de l'Église avec une grosse élan, mais il y a des autres mouvements qui sont un peu... non, pas si forte l'élan. Alors, pourquoi cela? Bien sûr, dans cette paroisse, il y a ces prêtres et cette prêtre est vraiment formidable, mais quand cette prêtre va à une autre paroisse, et la chose continue. Et il y a une autre paroisse, un autre prêtre, et quand ce prêtre est transféré à une autre paroisse, la chose va mal. Pourquoi? Alors, c'est une question que le bon Dieu est un peu capricieux, on dit en français capricieux. Et je vais te donner cela, et à toi non, à toi oui. Oh, il y a quelque chose qui appartient à la médiation humaine de la grâce. Bien, alors la question, c'est une question sur la possibilité de comprendre les médiations humaines de la grâce, qui actuellement, et nous le voyons, et c'est vrai que cette paroisse vit quelque chose de formidable, et cette autre paroisse, les mêmes sacrements, mais il n'y a pas de délai. Si nous voyons aussi l'histoire de l'Église, c'est vraiment étonnant de comprendre comment il y avait des minorités créatives, si créatives. Saint Antoine, Saint Benoît, l'essor de mendiants. Mais qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le même élan. Je pense que pour beaucoup de nous, sera un peu difficile d'aller au dessert pour vivre le chemin de Saint-Antoine. Et la possibilité d'évangélisation que l'Église a eue avec les monastères, les abbayes, et maintenant n'est-ce pas présent. Et c'est très difficile de comprendre l'Église sans ces monastères. Mais maintenant, l'Église n'a pas cet élan avec les monastères. Bien, l'essor de mendiants, l'essor de religieux, il me semble que pour nous tous, c'est d'accepter que la médiation humaine, c'est une médiation temporelle, culturelle aussi. Et la culture d'aujourd'hui n'est pas la culture du 3e siècle ou du 5e siècle. Alors, qu'est-ce qu'il se passe alors pour aujourd'hui, pour la fécondité du ministère ecclésial, du ministère du sacerdoce? Quelles sont les médiations qui font possible cette fécondité d'esprit? Alors la question de minorité créative n'est pas une question de pouvoir, n'est pas une question d'efficacité, n'est pas une question de nombre, mais c'est une question de fécondité, ça veut dire de plénitude humaine. La fécondité est toujours le travail de l'Esprit Saint. L'homme qui était fécondé par l'Esprit Saint. Comment est-ce que cet homme arrive à la plénitude? Comment est-ce que l'humanum s'ouvre à Dieu? Quelle est la médiation culturelle d'aujourd'hui? L'Esprit entre dans l'homme et l'amène à la plénitude. L'Esprit ouvre un chemin de plénitude humaine. Pourquoi? Quels sont les pas de ce chemin? Quelles sont les voies que l'Esprit Saint veut ouvrir aujourd'hui? N'est-ce pas une question de besoins? Les besoins que les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont besoin. N'est-ce pas seulement une question de besoin, mais c'est une question de plénitude. Quelle est la plénitude possible pour les hommes d'aujourd'hui? Bien. La plénitude. Et la réponse que je voudrais vous partager est que les schémas d'aujourd'hui sont les schémas de la vraie relation, sont les schémas de vraies amitiés. Des vraies amitiés qui débordent la plénitude qu'elle vit au-dedans d'elle-même, ces amitiés, et ces débordements peuvent se partager à des autres personnes, peuvent donner plénitude à des autres personnes. En participant dans l'amitié qui nous vient offerte, on participe à une nouvelle plénitude. Alors, pourquoi cette paroisse a une si grande fécondité? Pourquoi ce mouvement a une si grande fécondité? Pourquoi cet ordre religieux a une si grande fécondité? Parce qu'il y a une vraie amitié au-dedans. Il y a des vraies relations qui débordent. Mais on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire une vraie amitié. Pourquoi c'est une vraie relation? Pourquoi les débordements? Bien, ce sera ce que nous tenterons de comprendre mieux. Merci bien.